Bonjour, Marco, compte à rebours. Donc des contes, des histoires, des légendes, des blagues, des courtes et des longues. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais déjà fait, il n'y a pas si longtemps, une émission sur les fées. Eh oui. Eh bien, voici la deuxième. Une émission à nouveau sur les fées. Alors oui, j'entends déjà les esprits cartésiens me dire « Mais qu'est-ce qui nous bassine ? Des fées ?» Je fais un petit rappel sur la semaine passée où on en avait conclu suite à une réflexion approfondie que oui, les fées existent. Enfin, c'est moi qui avais conclu ça puisque j'étais seul à débattre. Et on peut rencontrer les fées si on se calme un tant soit peu à l'intérieur. Mais j'avais aussi raconté une histoire où on se rendait compte quand même que les fées n'étaient pas si commodes que ça, nous jouaient des tours parfois méchants ou en tout cas qui nous secouaient. Donc une question est posée, les fées sont-elles fréquentables ? Elles existent certes, mais sont-elles fréquentables ? Alors, le grand-père Disney nous a bien expliqué les choses. Hein. On distingue les fées douces et bonnes des sorcières méchantes et cruelles. Oui, mais si vous en êtes resté là, sachez que ça n'a rien à voir avec la réalité. Certes, ça fait des dessins animés rassurants pour les enfants, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Les fées sont plutôt le produit de la rencontre de notre esprit avec les éléments. Si nous sommes suffisamment ouverts et disponibles, bon, ce qui est devenu rare, hein, tout peut arriver, mais chacun donnera sa propre couleur à l'expérience. Ainsi, on parle souvent de l'ambivalence des fées, eh bien, ce n'est que le reflet de nos propres ambivalences. Ici, en particulier, dans la région, on a les fatsilières, qui sont ni gentilles, ni méchantes, ni bonnes, ni mauvaises, mais par contre, surprenantes, taquines, provocantes, radicales. Hein? On dit aussi, pour fées, on dit aussi les fados. En provençal, fada, eh bien, d'où le nom de celui qui a vu les fées, un fada. Eh oui, celui qui a vu les fées, c'est que ça fait de l'effet, hein. Car elles sont avant tout envoûtantes, fascinantes et irrésistiblement attirantes. Tout particulièrement les fées des eaux. Écoutez plutôt cette histoire qui est vraiment une histoire qui nous vient d'ici même. Vous connaissez sûrement l'Allère. L'Allère, c'est une rivière. Petite, hein. Elle prend sa source en bas depuis la roque et elle se jette, bref, après avoir passé cette fonte caussade, eh bien, dans l'Aveyron. Il y a toujours eu des moulins sur l'Allère. Pourquoi ? Parce qu'elle coule régulièrement tout au long de l'année. En fait, elle est maligne, cette rivière. Elle ne naît pas petite. Hein. Elle ne naît pas petite, elle naît grosse déjà. Elle coule sous terre d'abord, elle s'est bien préparée. Et quand elle sort, ben, elle est là, puissante. Il y a toujours d'ailleurs, un petit moulin près de la roche trouée, là-bas, en bas de Saint-Georges. Tout seul, ce moulin, les pieds dans l'eau, c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. Eh bien, il y avait là, il y a longtemps, un moulinier et sa femme qui menaient une vie tranquille. Ils avaient un fils de 18 ans qui s'appelle Père. Enfant de l'Allère, pour ainsi dire, livré à lui-même la plupart du temps, quasi sauvageur ou rêveur impénitent. Il avait eu la chance de découvrir tout petit, tout jeune, le monde des esprits subtils. L'enfant n'a pas d'a priori. Il explore ce qu'il rencontre à la mesure de sa liberté intérieure. Et c'est la rivière qui l'a initié. Depuis tout petit, il adorait s'asseoir sur le bord des rives et s'abandonner au scintillement de la surface et à l'incessant mouvement du courant. L'esprit, peu encombré par les tracas habituels des adultes, il pouvait sans peine laisser coïncider sa propre fraîcheur avec celle du ruisseau et se perdre dans une danse extatique avec les esprits élémentaires. Arc-en-ciel de couleurs chatoyantes, rire frais des dames de l'espace, douce caresse de la brise, permanence et impermanence du courant, dissolution dans la brillance même des yeux des fées. Tout jeune, il avait déjà exploré les profondeurs que même mystiques ou poètes ne font toute leur vie qu'espérer. Pourtant, on le considérait comme un simple d'esprit, un fada. Bien gentil, certes, mais un peu barré. Ne traîne pas avec Peyre, tu finiras fou comme lui. Il s'accommodait bien de sa solitude. En vérité, il n'était jamais seul. Sur les rives, libellules et demoiselles lui tournaient autour, les poissons lui mordillaient les pieds et la fée de la l'air lui chantait son chant d'amour. Que rêver de plus? Une copine en chair et en os, peut-être? Eh bien, ça ne l'a pas tracassé. Jusqu'au fameux jour où toute l'histoire a commencé. Comme souvent, il était installé sur une pierre au ras de l'eau, juste en dessous de la chaussée qui canalise le courant pour alimenter le moulin de son père. Il y a là deux bons trous d'eau, au-dessus et en dessous de la chute. Abandonné au ravissement, comme son habitude, il entend un bruit qui lui fait tourner la tête. La fée émerge de l'eau. Ruisselante de lumière, doucement, elle se hisse sur la chaussée. Les rayons du soleil traversant le feuillage de la rive l'illuminent dans toute sa splendeur. Elle est nue. Peyre est habitué à la douce sensualité du monde des fées. Mais cette apparition a un caractère plus pulpeux que d'habitude. Et l'émotion qu'il ressent le fait frémir de bas en haut. À pas léger, la fée a marché le long de la chaussée jusqu'à l'autre rive. Au soleil, elle a laissé le soin de la sécher agitant ses longs cheveux noirs. Elle a passé une robe et a filé, à pas pressés, vers l'amont. Peyre l'a suivi, sur l'autre rive, sans se montrer. Après le pont, elle a continué à remonter le long de l'allère. Et puis, au hameau, elle est entrée dans la première maison. La fée avait disparu, mais elle avait gagné un nom. C'était Jeannette, la fille de 40 au piole, le seul chauve de la vallée de l'allère. Rentrant chez lui, Peyre était songeur. Son cœur avait toujours été rempli par l'amour des fées, mais voilà qu'il réalisait que les filles des hommes pouvaient aussi l'émouvoir. Jeannette, la Jeannette qu'il connaissait depuis tout petit. Qui eût cru que sa robe épaisse dissimulait tant de grâce? Il faut de la patience en amour. De par sa fréquentation des fées, Peyre en avait à revendre. Et il a fait sa cour avec assiduité. Bouquet sur son chemin, air de flûte non loin du pré où elle gardait les vaches. Quand elle a été habituée à sa présence, il s'est rapproché, lui a chanté des poèmes frais comme la l'air. Quand elle a enfin osé le regarder, Elle a été envoûtée par ses yeux doux, où il lui semblait qu'elle pouvait se noyer dans la joie. Mais Carantopiol, le père de Jeannette, il s'est laissé séduire moins facilement.
« Mille dieux, je ne veux pas d'un fils de moulinier pour gendre, encore moins d'un fada. Je ne veux plus le voir tourner autour de toi, sinon je lui ferai comprendre à coups de bâton. »
Mais qui oserait frapper un fada? Après quelques mois, il s'était radouci, Carantopiol, et il lui a enfin adressé la parole. Pas pour des compliments, non, mais pour lui lancer un défi. Je t'invite à faire la première coupe de foin avec nous la semaine prochaine. C'est bien joli de faire des poèmes, mais j'aimerais voir ce que tu as dans le ventre. Si t'es pas à la hauteur, plus question que tu vois encore ma fille. C'est ainsi qu'un beau matin de juin, Peyre s'est retrouvé faux à la main, pierre à la ceinture, dans la Prado avec Carantopiol et quelques ouvriers faucheurs. Et le travail a commencé. Peyre savait s'y prendre. Oh, il fauchait le fouet pour l'âne de son père depuis longtemps. Sa faux sifflait comme il faut. Et elle ne se plantait pas dans toutes les montes. Mais les autres avait une telle cadence. Inexorablement, à chaque rang, il se faisait distancer. Le deuxième jour, il a essayé, tout au début, de rester à niveau des autres faucheurs. Il renonça bien vite. C'est le troisième jour que les courbatures sont apparues. Le dos est devenu raide et il a tourné sur son bassin davantage, ce qui fait que le quatrième jour, il était bloqué du bassin et a travaillé essentiellement avec les bras. Le cinquième jour, tout était grippé et chaque coup de faux lui arrachait des cris de douleur. C'est bien connu, la faux peut être mortelle. Et il a fini la journée écroulé dans une meule. Plus tard, harassé, il s'est éclipsé discrètement avant la fin du travail, avant surtout de subir les sarcasmes de tous les mâles en sueur. Il s'est arrêté sur son rocher en bord de l'air et s'est laissé bercer par les murmures du courant. Tous ceux qui fréquentent les fées le savent. Pour les rencontrer, il faut savoir s'abandonner. Mais il y a une limite à ne pas dépasser, celle du plouf. Le corps se détend, certes, mais pas jusqu'au plongeon. Le seul qui plonge, c'est l'esprit. Il saute dans la transparence, là où il n'aura plus jamais pied, ni même besoin d'avoir pied. Peyre savait tout cela. Mais ce soir-là, ce fut différent. Peut-être la grande fatigue qui l'assommait, ou le cœur en morceaux qu'il avait désormais après son échec devant le père de Jeannette. Toujours est-il qu'il n'a pas résisté à un puissant désir d'anéantissement. Plouf ! Caressé au plus profond par les yeux de la fée, il n'a rien senti et il a continué à descendre dans l'eau claire. La fée l'invite et il la suit. Ne plus avoir jamais de soucis. Mais brusquement, il se sent attrapé par le pied et tiré en arrière. Carantopiol essaye de le ramener à la surface. Peyre gigote pour s'enfoncer vers la lumière bleutée qui l'invite, mais une autre main le saisit. Son père est là, qui tire, sa mère aussi, qui lui arrache le pantalon. Il nage furieusement pour s'enfoncer vers le grand oubli, mais tous les habitants du coin sont là pour le tirer de l'eau. Il ne veut rien savoir. Il se dégage des prises et continue son plongeon, toujours plus profond, toujours plus profond. Une seule main l'attrape où il faut et tord. Ça le tourne sur lui-même et il se retrouve soudain seul et il retrouve ses esprits. Il est là, face à Jeannette. La petite courageuse Jeannette, qui l'a suivie quand elle l'a vu partir tête basse et qui le sauve là, haletant sur les pierres du bord, crachant des herbes aquatiques, les yeux hallucinés. « Je sais que tu les aimes, tes fées, mais je te veux vivant. » Au pied des falaises de la roche trouée au profond du bois où la mousse est épaisse, ils se sont aimés, avec la lune pour complice. Carantopiole, le père, eh bien finalement, il avait trouvé le père pas si faiblard. En vérité, il pensait qu'il ne tiendrait même pas un jour le train d'enfer qu'il avait mené. 4 jours, c'était pas si mal. Et ma foi, il a fini par céder à la Jeannette, qui savait ce qu'elle voulait. Elle a eu son père. Il s'en est fallu des cheveux, comme dans l'autre histoire, comme dans beaucoup d'histoires. Eh oui, il y a souvent des hommes noyés et des Jeannettes désespérées. Mais sachez en tout cas une chose, dans toutes ces histoires, malgré ce que racontent les apeurés, ce n'est jamais la fée qui pousse l'homme. Tout au plus, elle l'attire. Et il saute. Par contre, quand un homme est sauvé, c'est souvent par une femme.
À bal, à fondé, l'aigle, la lune, on s'est négado à bal. À fondé, l'aigle, la lune, on s'est négado sur la ribaudère, ou soumia, boy, no, filio, sur la ribaudère, ou soumia, boy, no, filio, pausa. Qui sera au béton, son coutillou secret, pausa. Qui sera au béton, son coutillou secret, de son cabu surtis, une bago d'offi, de son cabu surtis, une bago d'offi. A bal, al fundé, l'aigo, la lune, et sabado, a bal, al fundé, l'aigo, la lune, et sabado, tania, que de la filio de moro, que es un besti, tania, que de la filio de moro, que es un besti. A bal, al fundé, l'aigo, la lune, se es negado a bal. Al fundé, l'aigo, la lune, se es negado sur la ribaudère, suña, boy, no, filio, sur la ribaudère, suña, boy, no, filio, pausa. Qui sera un beto, son coutillo secret, pausa. Qui sera un beto, son coutillo secret, de son cabezón.
Eh oui, Nasreddine, on a le temps. Nasreddine et sa femme. Il y a malheur et malheur. On dit que Nasreddine était plutôt laid. Les yeux bigles, le teint rougeau, un gros nez. C'est pourquoi sa femme, à la veille d'accoucher de leur premier enfant, est prise de la crainte qu'il puisse lui ressembler. La voyant soucieuse, Nasreddine la questionne. Et elle finit par avouer ce qui la tourmente. Nasreddine, mon mari... Allah ne t'a pas fait bien beau, et tu le reconnais toi-même. J'ai peur que si c'est un garçon, il ne soit tout ton portrait. Oh, Khadija, si cet enfant me ressemble, ce ne sera qu'un petit malheur. Ce qui serait un grand malheur, en revanche, c'est qu'il ait la tête de notre voisin. Compte à rebours, c'est fini, j'étais déjà parti, hein. Je reviens pour vous dire au revoir, parce que de toute façon, on se retrouvera, c'est toutes les semaines, compte à rebours, le mercredi rediffusé, le dimanche, c'était Marco, compte à rebours, ciao.